Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là, donc pour accueillir Mazarine Pinjot, avec laquelle nous allons avoir une petite conversation sur son dernier livre, La dictature de la transparence. Donc Mazarine Pinjot fait partie des responsables de cette collection. Elle est même la co-directrice avec Sophie Nordman, donc chez Robert Laffont, une petite collection qui s'appelle Nouvelle Mythologie, où elle signe donc ce livre autour de la transparence. Alors elle est ici pour se présenter ce livre. Elle sera aussi présente au festival Philosophia demain et après-demain, je pense, mais en tout cas demain, elle doit intervenir sur un autre sujet qui est, la transmission de la culture.
La transmission,
puisque le 10e festival de Philosophia, qui a déjà démarré à Libourne, à Pomerol et donc demain à Saint-Émilion, est consacré pour son 10e anniversaire à la question de la culture. Voilà, un vaste sujet, mais qu'à Philosophia, on aborde toujours ces grands sujets avec un tas d'angles intéressants, et donc il y aura notamment cet angle sur la transmission. Je crois que c'est à 10h du matin, si ma mémoire
je
est bonne.
Je crois, oui.
Voilà, 10h du matin pour ceux qui voudraient se lever tôt demain matin et courir à Saint-Émilion pour avoir une deuxième lame de Mazarine Pinjot sur un autre sujet. Voilà. Mais parlons de transparence, dictature de la transparence, donc deux mots lourds, deux mots forts. Le mot de transparence est un mot d'ordre, est un mot important dans notre monde social, politique, mais je dirais même que ce mot est présent dans tous les champs sociaux. Ce mot de transparence, il est brandi souvent comme un étendard. On est sommé d'être transparent en tout domaine, sur le plan de ses relations avec les autres, sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan politique, j'en passe, hein, surtout un petit peu sur tous les plans. Donc évidemment, être transparent, c'est évidemment une excellente idée, une excellente disposition d'esprit. Cependant, ça peut poser quelques petits problèmes et même d'après vous, Mazarine Pinjot, quelques gros problèmes. Ce n'est pas évidemment un hasard si ce mot de transparence fait l'objet donc du premier volume de cette collection, qui est une collection sur les mythologies. Alors pourquoi ? Alors expliquez-nous, Mazarine Pinjot, dans quelle mesure ce mot de transparence, qui est un mot simple finalement, et que vous abordez en philosophe que vous êtes, en quoi est-il aujourd'hui une forme de mythologie ? Par quel glissement est-ce que nous sommes passés d'un mot simple à un mot beaucoup moins simple qu'il n'y paraît ?
Très chargé, oui. Alors en effet, c'est une nouvelle collection, donc je reviendrai juste quelques minutes sur ce que c'est qu'une mythologie, avant de pouvoir répondre justement à la raison pour laquelle la transparence me semble en être une. Les mythologies, c'est ce que Barthes avait fait à travers un ouvrage qui s'appelait donc Les mythologies, et où il travaillait sur des objets comme ça qui étaient représentatifs de notre monde contemporain, notre monde moderne. Alors il y avait la déesse, il y avait le steak frites, et il m'a semblé utile aujourd'hui de réactualiser sa démarche pour interroger des nouveaux objets. Alors objet au sens philosophique, c'est-à-dire que ça peut être un objet réel, un verre, enfin bon, en l'occurrence c'est pas vraiment une mythologie, mais un objet qu'on peut porter, mais ça peut être aussi un objet au sens de la construction d'un concept, donc un mot, une mode, un réseau, une tablette. Enfin, voilà. On est entouré d'objets, on le sait, les technologies sont proliférantes dans notre monde. On a un usage, chacun d'entre nous, alors à la fois subjectif mais aussi très normé par la société, et un usage qui bien souvent précède la réflexion sur l'objet et la construction même de la notion. Et donc il m'a semblé utile, avec Sophie Nordman, donc, d'interroger comme ça ces objets qui pouvaient, en retour, raconter quelque chose de notre monde contemporain. Il y a un aspect supplémentaire dans l'idée de la mythologie, c'est lorsque quelque chose, un concept, une mode, un mot, encore pour reprendre des exemples, apparaissent tout à fait naturels, évidents. C'est-à-dire que précisément, et c'est à cet endroit-là que Barthes va travailler, et c'est aussi à cet endroit-là que la collection se pose, c'est essayer de montrer pourquoi des choses qui paraissent tellement évidentes, parce qu'on les entend tous les jours, parce qu'on ne les remet plus en cause, sont en réalité pas si évidentes que ça. Et la mythologie est chargée en réalité d'une idéologie, mais d'une idéologie invisible. Et c'est en ça que l'idée de transparence me semblait tout à fait centrale relativement à la mythologie, c'est que la transparence me semble être effectivement une idéologie contemporaine, d'autant plus idéologique qu'elle est invisible. C'est-à-dire qu'elle ne se voit, elle ne se montre pas comme idéologie.
Alors d'ailleurs, il faut peut-être partir du mot lui-même et de ça et de ça, de partir de la racine du mot, puisque dans transparence, il y a ce qui permet de voir et puis ce qui est vu. Voilà. Donc il y a la chose que l'on voit derrière une vitre, par exemple, une vitre transparente, et puis il y a la vitre elle-même qui est transparente.
Exactement.
Alors donc apparemment, dans la transparence même, l'étymologie du mot transparence est elle-même déjà, on va dire comment, ambiguë, ambivalente, floue, double.
Je pense qu'on peut dire qu'elle est ambivalente. C'est-à-dire que le mot lui-même porte une ambivalence qui va se répercuter dans tous les champs où il s'exporte. Ambivalence, pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, être transparent, c'est, comme la vitre, par exemple, être invisible, puisque on peut voir à travers, la vitre est transparente dans la mesure où je vois derrière l'immeuble. Et je ne peux le voir que par la grâce de la transparence de la vitre. Donc elle est invisible. Enfin, en tout cas, sa qualité de transparence est d'être particulièrement invisible. Le deuxième sens, le sens figuré, c'est plutôt dans le champ psychologique, la transparence de l'âme, c'est-à-dire je me montre à nu devant toi, je te livre tout, je ne triche pas, autrement dit, je suis totalement visible. Je me montre à toi comme totalement visible. Alors d'un côté, on a une invisibilité et de l'autre, on a une totale visibilité. Alors, c'est quand même très étrange que le même mot puisse signifier exactement le contraire.
Je te montre tout et en même temps, il y a des gens qui se plaignent d'être transparents, c'est-à-dire de n'être pas vus par les autres, d'être
exactement.
Simplement, des moins que rien, finalement, puisqu'on ne les voit pas. Hein, c'est ça.
Dire que de quelqu'un qui est transparent, ça veut dire à la fois dire qu'il est lisible, enfin, qu'il montre, qu'il se donne à voir, mais aussi, effectivement, qu'il est totalement insipide, invisible. Ça. Donc, c'est très étonnant. C'est toujours très étonnant quand un mot fait direction, fait signe vers deux orientations contraires. Et en fait, je pense que la transparence, alors notamment associée à l'image, il y a plusieurs champs, on va peut-être essayer d'en voir différents, mais celui de l'image en tout cas, l'image omniprésente dans notre société. On ouvre la télé, il y a l'image, elle est nécessairement omniprésente parce que nous faisons face à des écrans en permanence, que ce soit celui de notre téléphone, de notre appareil photo, de notre télévision, de notre iPad, enfin, et j'en passe, l'image a pris une place considérable dans nos vies, et souvent d'ailleurs au détriment de l'écrit. Et donc l'image, on peut se dire, voilà, le tout de la visibilité qui est effectivement l'idéal de la transparence. Est-ce qu'on n'atteint pas cette visibilité idéalisée grâce à cette prédominance de l'image? Par les réseaux sociaux, on peut voir ce que fait l'autre, je ne sais pas, en train de faire son jogging ou donner son biberon à son enfant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de l'omnipotence et de l'omniprésence et de l'ubiquité.
Merci. Oui.
C'est-à-dire d'être partout, en tout lieu, qui est tout à fait... tout à fait intéressante. Et donc on peut se dire, voilà, on accède à un champ du visible, du total visible. Et c'est précisément le moment où il me semble que plus il y a d'images, moins l'image est lisible. C'est-à-dire que plus il y a d'images, et donc encore une fois au détriment des mots, c'est-à-dire d'une contextualisation, d'un tissage avec le langage, d'une mise en perspective, plus il y a de l'image aveugle, qui n'est donc pas contextualisée, qui fait oublier le hors-champ, qui fait oublier son inscription dans une temporalité, dans un espace, eh bien, plus il y a ces images-là qui semblent être visibles, plus en réalité on est dans un monde d'invisibilité. D'invisibilité et d'illisibilité. Parce que l'image, si elle avance masquée, donc en portant en elle l'idée qu'elle est totalement visible, et donc qu'elle est réelle, qu'elle est vraie. Si c'est visible, c'est que c'est vrai. En réalité, masque que c'est pas parce qu'elle montre quelque chose et qu'elle est totalement visible qu'elle va apporter une intelligibilité. Et donc, il me semble que l'image est le nouveau masque de notre vie contemporaine et qu'il faut être très prudent avec le maniement des images.
Alors, vous, cette affaire de l'image, donc, vous abordez cette question dans la deuxième partie du livre. Il y a une critique classique de l'image. L'image dit-elle la vérité? Dans quelle mesure une image est-elle construite? Vous remarquez très bien que par exemple, toutes ces images, ces photos extraordinaires rapportées par exemple par les reporters de guerre sur les conflits oubliés ont permis une intelligibilité de ces conflits, mais jusqu'à quel point cette intelligibilité est-elle possible sans une mise en perspective par les mots, hein. Et donc ça vous dites bien combien les reporters de guerre, en tout cas les meilleurs, ont toujours voulu contextualiser leurs images et pas les présenter de manière brute comme si elles étaient porteuses à elles seules de la réalité. Ça, c'est une partie de votre bouquin, qui est donc la deuxième partie, qui est très intéressante. En même temps, je voudrais peut-être revenir au début, c'est-à-dire à l'individu.
Juste pour terminer sur l'image, peut-être que vous voulez qu'on en parle après, sur la question de non seulement l'image est mensongère, donc effectivement, ça, c'est un prisme très classique de la philosophie, parce que le voir, le visible, a toujours été la métaphore privilégiée de la philosophie de la connaissance, y compris dans le langage, lorsqu'on dit « ah oui, je vois, ah, mais c'est lumineux », ce sont toujours des métaphores visuelles qu'on utilise pour dire « je comprends, je connais ». Donc le voir a toujours été privilégié par les philosophes pour dire le connaître. Et en même temps, on a aussi la caverne de Platon où les images sont des illusions, sont déjà des écrans, etc.
J'avais envie de vous faire revenir précisément, puisque vous êtes philosophe quand même, à cette filiation de cette idée-là, parce que effectivement, le livre commence avec Platon, avec la caverne de Platon. Alors redites-nous cette caverne de Platon. C'est une caverne dans laquelle il y a des images, hein, ces images qui représentent des idées. Et alors, quelle est la différence entre la caverne de Platon, qui déjà met au cœur de notre réflexion occidentale cette affaire de l'image, du rapport entre l'image et l'idée,
et du fait que les apparences sont fausses,
et puis aujourd'hui les cavernes modernes que vous signalez, cette caverne moderne dont vous dites qu'elle est couverte d'écrans plasma, c'est-à-dire et donc d'images inanimées ou animées, mais qui ne renvoient finalement qu'à elle-même, alors que la caverne de Platon, elle, renvoie à autre chose qu'à elle-même. Alors expliquez-nous ce glissement.
Alors,
on part de Platon, on arrive à aujourd'hui, et comment est-on arrivé là?
Voilà, alors dans la République de Platon, effectivement, il y a cette idée qu'il faut arriver à dépasser les apparences, qui sont ces images projetées sur les murs de la caverne et qu'on prend pour le réel, pour la vérité. Et donc là aussi, d'une certaine manière, Platon a déjà complètement conceptualisé ce qu'il en était d'une mythologie, l'idée de croire ce qu'on voit, quoi. Ce sont des illusions et pourtant, on pense que c'est le vrai, c'est le réel. Toujours la question du réel, qu'est-ce que c'est que le réel en réalité, bon. Et donc le philosophe va essayer de sortir de la caverne, malgré l'effort que cela lui coûte, pour accéder aux idées, c'est-à-dire justement à ce qui est de l'ordre du vrai et qui n'est pas visible, qui est de l'ordre de l'intelligible. C'est-à-dire que les images ne seraient que les copies mal faites des idées. Et donc il faut atteindre l'idée pour revenir ensuite dans la caverne et comprendre que ces images sont peut-être utiles, mais qu'elles ne disent pas le vrai, qu'elles n'en sont qu'une pâle copie. Donc c'est juste cette capacité de faire la distinction entre le réel ce qui est utile, mais qui n'est pas de l'ordre du vrai, ni du réel, parce que chez Platon c'est la même chose. Le déplacement auquel on assiste, mais qui finalement n'en est pas tant un, parce que d'une certaine manière on peut se dire qu'on est exactement dans la même situation que les esclaves enfermés dans la caverne, c'est que nous prenons les images pour le réel, mais on voit bien que l'écran médiatise notre rapport au réel, et ça on va en reparler à travers le selfie par exemple, enfin, ces pratiques très contemporaines où on a toujours besoin d'images pour attester de l'existence. On voit tous, et même on le fait tous, de se prendre en photo, lorsqu'on vit quelque chose, de d'abord le prendre en photo pour le figer, pour qu'il existe, avant même de se demander si on est en train de le vivre. C'est-à-dire que l'image vient attester de la chose que l'on est en train de vivre. Et c'est très symptomatique du tourisme, par exemple, où on voit qu'effectivement, mais encore une fois, c'est vraiment pas une critique, hein, parce que je fais totalement partie de ce type de pratique, où l'on voit qu'on a besoin de prendre en photo les lieux où on est allé, soi-même en bas d'un monument, etc. Parce que d'une certaine manière, on a l'impression que l'image va attester du réel.
Mais c'est-à-dire que non seulement on fait la photo et soi-même sur la photo, mais ensuite on la poste, on l'envoie, on la fait partager, parce que ça aussi ça fait partie
de ça fait partie. Autre chose. Ouais,
c'est une autre dimension de la transparence, c'est-à-dire que je suis présent devant le Parthénon, mais j'aimerais bien que tout le monde le sache. En tout cas, tous mes amis déjà, mais et puis peut-être d'autres personnes si c'est sur mon mur de Facebook ou autre chose.
Absolument. Hein. Et donc déjà il y a un déplacement entre ce qui est vécu, ce qui est expérimenté, vers l'image qui serait donc plus réelle que l'expérience. Dans notre pratique quotidienne des choses. Donc, ce premier déplacement, si vous voulez, où effectivement, nous-mêmes, sans nous en rendre compte, on accorde plus de réalité et de confiance en l'image qu'en notre expérience propre. Justement, pourquoi ? Parce que l'expérience propre ne peut pas être partagée. L'expérience propre a quelque chose qui est d'une singularité absolue. Alors, elle peut être partagée par les mots, par la métaphore, par un récit, évidemment. D'abord, c'est plus long, c'est plus fastidieux. Et ensuite, il faut avoir quelqu'un, un interlocuteur qui est intéressé. Et puis ensuite, c'est quand même déjà un travail de traduction. Alors que l'image, d'une certaine manière, est encore une fois une forme d'attestation du réel, mais ni qui rend intelligible l'expérience, ni qui la traduit, juste qui en atteste. C'est juste une attestation. Et c'est ça qu'on va partager, finalement, de plus en plus, au lieu de relater le récit de voyage, etc. Bon. Donc ce déplacement vers l'image, non seulement comme le lieu du réel, mais même comme attestation d'existence, c'est presque ontologique, se lie, à mon sens, et se répercute dans la société, donc par rapport à la caverne platonicienne. D'une certaine manière, on est dans une caverne où effectivement on est entouré d'images dont on suppose qu'elles nous disent le réel, et non seulement on suppose qu'elles nous disent le réel, mais on pense qu'elles sont le réel. Puisque, encore une fois, l'image de moi en dessous de ce monument me semble être plus réelle que ce que j'y ai vécu et finalement auquel je n'ai pas été très attentif. Puisque l'important, c'était cette image. Donc, l'image se substitue au réel parce qu'elle nous semble plus réelle. Et c'est à cet endroit-là que ça devient dangereux. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut se dire l'image, elle est pas, c'est un point de vue, elle n'est pas tout à fait vraie, etc. Mais non, en réalité, notre pratique de l'image fait que nous croyons plus à l'image qu'à l'expérience. Et ça s'est, si vous voulez, étendu dans la façon, par exemple, dont on regarde les médias. C'est-à-dire qu'on est dans un flux permanent d'images, d'informations, que ce soit à travers la télévision, les chaînes d'information continue ou le net, où en fait, on n'a de plus en plus affaire qu'à des images, quoi, qu'à des écrans. Et ça nous suffit, parce que les écrans, y compris dans la manière dont les nouvelles technologies fonctionnent, finissent par s'auto-référencer, c'est-à-dire que c'est telle image qui, au lieu de faire référence à quelque chose qui s'est passé dans le monde réel, va finir par être associée à une autre image sur la toile pour X raisons, qui elle-même fait référence à une autre image, qui elle-même fait référence à une autre image, et finalement on n'en sort pas, on reste dans un circuit clos où il n'y a plus que l'image qui existe, si vous voulez, et qui est presque capable de se passer du référent du monde. Et donc, on vit dans une caverne dont il me semble qu'il est beaucoup plus difficile de sortir qu'à l'époque de Socrate ou du philosophe roi, parce que où sont les idées ? Enfin, où sont les idées ? Est-ce qu'on va pouvoir sortir de l'écran dans la mesure où le réel lui-même est en phase de décomposition ?
Alors évidemment, c'est ce que vous décrivez là, c'est une tendance. Hein,
oui,
c'est
non,
une tendance. Et alors, c'est une tendance. C'est aussi c'est un risque. C'est-à-dire, c'est ce risque de décoller du réel, ce risque de se retrouver finalement en apesanteur par rapport à lui. À supposer qu'on sache toujours ce que c'est que le réel, mais ça, c'est un autre problème. Mais alors, vous avez parlé de l'ambiguïté, de l'ambivalence de l'image, de la transparence, je veux dire. Il y a aussi l'ambivalence de l'individu par rapport à son désir de transparence. C'est-à-dire que D'un côté, nous souhaitons être transparents, ou en tout cas nous donnons pour objectif d'être plus vrai, plus transparent, plus sincère, et en même temps nous revendiquons notre liberté individuelle. Or cette liberté individuelle, elle repose tout de même sur je ne dirais pas le goût du secret, mais elle repose tout de même sur une certaine sphère, alors qu'on appelle la vie privée, et qui est une sphère qui est à interroger aujourd'hui dans ces nouvelles dimensions, parce que où se situe la vie privée aujourd'hui, on ne sait plus très bien, dans la mesure où nous laissons des traces de notre passage en tout lieu, en tout temps, par nos objets connectés notamment, mais pas seulement. Et donc nous avons à la fois le désir d'apparaître aux yeux des autres, le désir de poster, de témoigner, de rencontrer, de faire des attestations de transparence. Et en même temps, nous voulons aussi conserver notre quant à soi, dans une certaine mesure. Alors, là, l'individu est au cœur de l'ambivalence. Il est lui-même très ambigu. Donc vous avez envie de lui dire. Attention quand même, hein.
Oui. Ensuite, je suis pas là pour donner des leçons, hein. Juste pour dire.
Ça transparaît clairement dans votre raisonnement.
Absolument, pour mettre en garde. Oui, alors l'individu est complètement contradictoire, et ça vaut aussi bien pour ce qu'il pense de lui-même que dans sa relation à autrui et particulièrement au plus proche. Par exemple, la relation amoureuse, Sartre l'a très très bien définie et racontée dans L'être et le néant. Oui, c'est ça. Tout à coup, j'ai l'impression de parler de
Heidegger. Dans L'être et le néant.
Peu importe. Où il explique en gros que quand on aime l'autre, on a envie de le posséder. Le posséder comme un objet, c'est-à-dire le connaître. Connaître quelque chose, c'est une manière de possession. C'est le délimiter, le comprendre. Donc si on le possède, qui a un désir légitime inhérent à l'amour, on le perd, puisque ça devient un objet. Or, ce qu'on aime chez l'autre, c'est sa liberté, c'est le fait qu'il soit un sujet. Donc, à la fois, on voudrait le posséder, mais si on le possédait, on ne l'aimerait plus. Donc, on veut à la fois qu'il soit un sujet libre. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il soit un sujet libre? Parce qu'on veut qu'il nous aime librement. Si c'est un objet, il ne peut pas nous aimer. En tout cas, il est déterminé à nous aimer. Donc on est dans une injonction complètement contradictoire. On veut le posséder, mais on veut qu'il soit libre. C'est la même chose pour l'individu. L'individu, il veut être totalement libre de toute contrainte. Il ne supporte pas le contrôle. Il ne veut pas qu'on sache ce qu'il fait tel soir ou ce qu'il mange le matin, enfin, ou je ne sais quoi. Enfin, il est légitimement protecteur de son intimité et pourtant il utilise son GPS. C'est-à-dire quoi, utiliser son GPS? C'est-à-dire être géolocalisé, on peut savoir exactement où il est, n'importe quel moment, n'importe quelle heure de la journée. Donc, tout à la fois, il utilise cette technologie qui sont très pratiques, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'il est complice de son propre contrôle, et de l'autre côté, de l'autre main, il critique cette société de contrôle en disant « c'est insupportable, il n'y a aucune raison qu'on puisse savoir où je suis, je n'ai plus d'existence propre, où se situe ma vie privée, etc. » C'est un problème très actuel, avec l'état d'urgence en plus, et puis l'idée qu'on puisse être contrôlé en tout lieu, en tout temps, c'est toujours la dialectique entre la sécurité et la liberté. Elle est très classique. Elle est très classique, mais elle prend quand même une envergure assez considérable avec les nouvelles technologies qui lui donnent une nouvelle vie à cette problématique. Non seulement une nouvelle vie, mais même peut-être une nouvelle manière de se poser. Pourquoi ? Parce que nous sommes complices de notre propre aliénation. Alors, c'est quelque chose qui est déjà en place avant que les téléphones portables existent, bien sûr. Mais là, de plus en plus, si vous voulez. Et donc, c'est étrange, parce qu'on a tous fait l'expérience, je sais pas, d'acheter un truc sur Internet, et puis qu'une semaine plus tard, on nous propose, on nous appelle d'abord par notre nom et notre prénom, et puis on nous propose des trucs qui sont pas très éloignés de ce qu'on a acheté. Donc si un jour on aime les gaufres, on aimera les gaufres toujours. Et puis comme d'autres gens qui ont acheté les gaufres aiment beaucoup la poésie de Baudelaire, et ben nous aussi normalement, selon des statistiques. Enfin, donc il y a quelque chose d'extrêmement intrusif, mais auquel on participe. Parce qu'on achète sur Internet, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sur Internet, mais j'achète sur Internet, c'est hyper pratique. sauf les livres, bien sûr. On parle dans une librairie ou sur le site. mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien sûr qu'il y a une injonction contradictoire par rapport à la transparence. C'est-à-dire qu'on est bien content qu'il y ait une possibilité de contrôler les individus dangereux. On n'a pas envie d'être contrôlé soi-même. Donc, la transparence, elle est bonne pour qui ? C'est toujours la question à se poser. C'est-à-dire que si soi-même, on peut vouloir pour soi-même être transparent aux yeux des autres, bon, pourquoi pas ? C'est une forme d'éthique qui, par ailleurs, est structurellement impossible. Ça, on y reviendra, mais peu importe. Mais qu'on l'exige des autres, c'est à cet endroit-là aussi que ça peut devenir totalitaire. Quelle est la forme d'éthique qui est imposée à autrui ? Enfin, c'est déjà contradictoire.
Alors, il y a des domaines de la vie sociale où la transparence est plutôt populaire. J'allais dire, je pensais par exemple à la sphère financière. Donc, on est souvent en train de critiquer l'opacité des circuits financiers, l'opacité de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui ont en main les leviers économiques, qui donc pratiqueraient pratiqueraient, je ne sais pas, la fraude fiscale, la dissimulation, etc. Et donc, il y a une injonction de transparence financière qui est assez populaire quand même. C'est populaire.
Oui, bien sûr.
Et légitime
dans certains lieux.
Et qui donc peut aujourd'hui s'appuyer sur certains outils, pas forcément suffisants. Alors vous le saluez, ça, vous dites oui, d'accord, c'est effectivement une injonction qui est justifiée. La société a raison, évidemment, et les individus ont raison de se placer sur ce plan-là. En même temps, même sur ce sujet-là, vous dites attention. Attention, pourquoi ? Alors, pourquoi faudrait-il aller jusqu'à un certain point et ne pas dépasser un certain point ? Je ne sais pas, je pense par exemple aux déclarations de patrimoine qui sont exigées des hommes politiques, des choses comme ça.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites et il y a plusieurs types de réponses. D'abord, on peut répondre, premier niveau de réponse, que la transparence, c'est formidable à condition que ça soit juste dans certaines sphères. Et que précisément, c'est là où elle devient mythologie ou idéologie, on l'exporte à tout bout de champ dans toutes les autres sphères comme si tout se valait. C'est-à-dire le monde politique, le monde financier, le monde pharmaceutique, enfin là où il est censé y avoir de l'opacité. Bon, moi il me semble que c'est tout à fait nécessaire que dans un labo pharmaceutique, il y ait une certaine transparence, que dans des institutions financières, il y a une certaine transparence. Etc. Mais
vous dites une certaine transparence.
Non, mais parce que en fait, le problème, c'est est-ce qu'on a besoin du concept de transparence pour ça ? Est-ce que la seule arme pour lutter contre la corruption s'appelle la transparence ?
Alors vous dites qu'il y a la loi aussi.
Bah oui. Pourquoi est-ce que la morale doit décider à la place de la loi ? Depuis quand la politique est devenue une affaire de morale ? Depuis quand est-ce que on ne demande plus aux hommes politiques de faire de la politique ? À la justice, de faire la justice, mais tout à coup, une injonction morale d'être tous des béni-oui et dire ben, regardez avec qui je vis, avec qui je dors, quelle maison j'ai, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce concept-là, qui est quand même un concept d'ordre moral, mais qui est une morale qu'il faudrait quand même réinterroger, enfin, d'où elle sort, sur quoi elle est fondée, qui est-ce qui en a décidé, quelle est la philosophie qui fonde ce concept-là ? Et alors, si on critique la transparence, ça veut dire qu'on est pour la corruption ?
C'est sans doute l'égalité là, qui est dessous, la demande d'égalité.
Mais oui, mais pourquoi alors invoquer la transparence pour parler d'égalité ? En quoi ce sont deux concepts qui sont corrélés, voire organiquement liés ? En quoi ? Personnellement, je ne le vois pas. Alors, effectivement, peut-être que philosophiquement, on peut retrouver des bribes de transparence chez Saint-Just, par exemple, Robespierre. Mais là, y a une connexion très claire entre l'injonction morale, qui en l'occurrence devient une injonction tyrannique, enfin de terreur, ça porte bien son nom, et l'injonction politique. Pourquoi confondre les deux champs qui ne sont pas censés se confondre ? Et je pense que c'est un danger pour la politique. Je pense que c'est un danger pour la politique parce que Le temps qu'on demande aux hommes politiques de nous raconter ce qui se passe dans leur chambre à coucher, c'est autant de choses qu'on n'exige pas d'eux à la tête du gouvernement ou dans leurs fonctions ministérielles.
Donc l'injonction de transparence serait une sorte de béquille pour une loi insuffisante ou impuissante.
Oui, moi je pense que le droit est là pour régler les problèmes de société. Je pense que la justice est là pour juger les individus qui ont transgressé la loi.
Donc là, on peut imaginer que l'injonction de transparence, pour parler de ce thème-là, est vraiment un indice, un symptôme d'un manque, de lacune.
D'une idéologie.
Je pense que
c'est plus d'une idéologie.
Oui, mais aussi de lacune dans le fonctionnement du monde politique.
Alors sans doute, mais c'est pratique, parce que tant qu'on brandit la transparence, ça permet de ne pas réfléchir sur des nouvelles propositions de loi, sur comment réorganiser peut-être que c'est mal organisé, c'est-à-dire d'avoir une vraie réflexion politique. C'est une sorte de cosmétique avec des relents quand même très d'ordre moral, vertueux, et ceux qui s'y soustrairaient seraient donc quoi, des infâmes. Je pense que c'est très dangereux. C'est d'autant plus dangereux que, pour revenir juste par exemple à l'exemple de la relation privée qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre, y compris avec soi-même. Mais heureusement que chez l'être aimé, il y a une forme d'opacité. Heureusement qu'il reste une part de mystère, de possible. Est-ce que la transparence n'est pas l'inverse de l'imaginaire? Est-ce que la transparence n'est pas l'inverse des aléas, de l'impulsion, de tout ce qui relève de la vie, quoi? Est-ce que la transparence n'est pas l'inverse de l'art? Est-ce que le fait d'un tout visible n'empêche pas la construction de l'invisibilité?
Je me suis même demandé, pourquoi vous avez écrit un livre de philo, un livre sur la dictature de la transparence, mais vous auriez pu aussi écrire un roman qui aurait pu s'appeler Éloge du clair-obscur, par exemple. Vous voyez, vous auriez pu faire un roman...
De manière plus positive.
Faire de façon positive quelque chose qui, effectivement, et nous explique tout ça de manière chatoyante, positive. Alors bon, c'est pas l'esprit de la collection, bien compris.
Ouais.
Hein, là, vous êtes dans une démarche de déconstruction de la notion,
absolument.
C'est bien ça.
Mais c'est sûr que si tout était transparent, il y aurait plus de romans. On serait très malheureux pour écrire.
Ni de peinture, ni rien.
La peinture, il n'y a de la perspective, il n'y a des ombres, où il n'y a du soleil. La luminosité ne se voit que relativement à l'obscurité, évidemment, dans une peinture. Si on déconstruit une peinture, c'est bien parce que je cherche le mot technique, mais bon, on s'en fiche, des contrastes en tout cas, que quelque chose devient visible. Si tout est étalé, si tout est mis au même niveau, mais ce qu'on voit d'ailleurs sur la toile, dans la question de la hiérarchisation des informations, par exemple, qu'est-ce qui fait la hiérarchisation d'une information? Alors, on a l'impression que tout est mis à plat, que tout est au même niveau. Parce que finalement, à part qu'il y en a une qui arrive en premier, l'autre en second, etc.
Souvent en fonction d'ailleurs de l'heure à laquelle la nouvelle est tombée.
Hein. Ouais. Mais en fait, donc on a l'impression qu'il y a quelque chose d'horizontal comme ça, où rien n'est plus important qu'autre chose, que tout est mis à disposition. L'information est mise à disposition, ce qui est un grand progrès, hein, parce que c'est formidable de pouvoir aller chercher en trois clics une information qu'on cherche. Donc de ce point de vue-là, d'une certaine manière, on a... l'idéal des Lumières qui est plus ou moins actuel dans le sens où on a un accès au savoir. Mais un accès, juste, c'est pas parce qu'on a un accès au savoir qu'on a du savoir. Parce que l'accès qu'on a, il nous donne des informations. Mais les informations ne sont pas du savoir. Le savoir exige une démarche, un effort, quelque chose de beaucoup plus vertical, de beaucoup plus organisé. Pas juste une lecture superficielle sur la toile. Mais par exemple... si on ouvre l'Internet, par exemple, et où on a l'impression que tout est mis au même niveau, on peut se dire, il n'y a plus de hiérarchisation, ce qui est vrai d'une certaine manière, et ce qui est même un peu dangereux. La guerre en Syrie n'est pas plus importante que la nouvelle crème de beauté qui vient de sortir, ce genre de choses. Mais en fait, il y a une organisation quand même des contenus. Il y a une organisation, ça s'appelle Google. Et donc on a l'impression d'une totale lisibilité, alors que cette totale nouvelle visibilité est totalement organisée par quelque chose qui, pour nous, est tout à fait invisible.
Alors selon des critères qui, pour le coup, sont pas transparents, c'est ça?
Absolument pas transparents. Donc de toute façon, à la fois d'un point de vue éthique, il me semble qu'il faut interroger le concept de transparence, qui peut être utile en certains lieux et en certains espaces, à condition de ne pas être manié comme ça, comme si c'était une évidence, comme si on partait en croisade pour amener la vertu parmi nous, parce que je ne pense pas ni que ce soit efficient, ni que ce soit juste. Mais donc, à la fois d'un point de vue moral, il me semble que c'est en tout cas à interroger, mais même d'un point de vue structurel, je pense que c'est la transparence, de toute façon, ne peut pas exister.
Mais alors, cette transparence, elle est quand même tellement présente. Vous parlez d'injonction, c'est-à-dire que tout le monde, même si elle ne vous est pas imposée par des textes, vous l'intégrez vous-même comme une forme d'impératif catégorique, ou d'autocensure peut-être aussi. Vous l'intégrez, à tel point que, par exemple, pour en revenir à l'exemple de nos hommes politiques à qui on demande de faire des déclarations de patrimoine, ils s'exécutent.
Ils ont complètement intégré.
Ils n'ont pas tellement le choix de dire non. Ou alors, s'ils disent non, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus vraiment s'opposer à cette injonction?
Parce que c'est une mythologie.
Au nom de l'esprit de résistance, quoi. Est-ce que ce serait pas une résistance populaire, ça, pour le coup? Résister à la transparence, c'est pas populaire.
C'est pas populaire et pourtant on résiste tous à la transparence, comme on le disait tout à l'heure. On n'a pas non plus autant on a envie de savoir peut-être chez nos élus, mais nous on n'aimerait pas qu'on sache chez nous. Enfin, je veux dire, il y a cette ambivalence, y compris chez chacun d'entre nous. Enfin, elle est présente. Mais non, sur la question de montrer, enfin de publier son patrimoine et tout, et le fait surtout, et c'est ça qui est intéressant, que les hommes et les femmes politiques aient totalement intégré l'injonction, c'est exactement ça une mythologie. C'est-à-dire quelque chose qui paraît naturel, alors qu'il n'a rien de naturel. Ça n'est pas une évidence. Pourquoi pas? Si on considère que c'est utile, que c'est valeureux, après y avoir vraiment réfléchi, pourquoi pas? Mais parmi ceux qui brandissent cette valeur, cette nouvelle valeur, je ne vois pas personnellement de réflexion qui permette, moi, en tout cas, de me convaincre qu'elle est utile ou qu'elle est valable. Bon, première chose. Donc, on est exactement dans ce qu'on appelle une mythologie, c'est-à-dire tout le monde est aux ordres. Tout le monde est aux ordres de quelque chose de silencieux, de quelque chose qui n'est même plus demandé, mais de quelque chose qui est une nouvelle forme de normativité. C'est une norme. Être transparent est devenu une norme qu'on n'interroge plus. C'est exactement la définition de la mythologie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu commencer par cette notion-là, parce qu'en fait, elle, d'une certaine manière, au second degré, elle dit ce que c'est qu'une mythologie. Voilà, c'est une nouvelle norme. Et donc, je trouve que c'est à la fois un peu inquiétant et en même temps normal que les hommes politiques se plient à l'injonction morale qui est venue...
Parce que s'ils ne le font pas...
S'ils ne le font pas, alors c'est ça aussi qui est dangereux. C'est-à-dire que maintenant, si on nous montre pas quelque chose, ça veut dire qu'on le cache. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nuance dans la pensée. Soit c'est montré, soit c'est caché. Comme s'il n'y avait plus d'espace, l'espace intime, l'espace privé, le lieu qui nous appartient, le lieu qui est précieux. Parce qu'on oublie que dans l'idée de préserver quelque chose des regards, c'est aussi lui donner une valeur. Ne pas montrer quelque chose ou le montrer juste à quelques-uns, c'est lui donner de la valeur. Alors, tout montrer à tout le monde, c'est aussi une manière de dévaloriser tout. Donc, si on pense que si on ne montre pas, ça veut dire qu'on cache, si on est dans quelque chose de totalement bivalent comme ça, de quelque chose qui exclut toute forme de symbolique, parce que c'est ça en réalité la transparence, c'est la mort du symbolique. Et la mort du symbolique, c'est la mort de la civilisation. Mais si on pense que donc c'est totalement binaire, que soit on montre, soit on cache, alors effectivement, on est dans une société qui n'est pas très riche, quoi, qui n'est pas très riche, encore une fois, en termes de symbolisation, en termes d'échange, en termes de relations humaines. Et on a tous fait l'expérience. On sait qu'il y a certaines personnes à qui on montre des choses ou on dit des choses et d'autres non. On sait que ce n'est pas toujours les mêmes, d'ailleurs, selon ce qu'il y a à dire ou à partager ou pas. On sait qu'il y a des choses qu'on va garder pour soi parce que c'est pas forcément bien de les dire, peut-être à ce moment-là, ou juste... pour lui garder justement la valeur qu'on veut lui donner, parce qu'à la dire, elle va un petit peu se déliter. On a tous fait cette expérience-là. Eh bien, pourquoi pas réinterroger et revenir sur ces expériences finalement assez banales, assez quotidiennes, pour se dire, mais alors, c'est quoi la transparence? Pourquoi est-ce que je ne montre pas tout ça si on me le demande? Pourquoi est-ce que j'ai tendance à non pas le cacher, mais à le préserver ou à le choisir? Parce que la transparence, c'est tout dire, tout montrer. Alors, où est la question du choix? Où est la question de la valeur? C'est tout ça que ça attaque, si vous voulez.
Alors, on comprend bien, évidemment, que sur le plan des relations interpersonnelles, des relations amicales, amoureuses, des relations sociales, bon, on comprend très bien que cette exigence de l'obscur, hein, enfin, comment dirais-je, de façon positive, que, ouais. En tout cas voilà, de l'intime,
de l'épaisseur,
ouais. Peut-être du flou aussi, enfin, soit totalement nécessaire. J'aimerais quand même revenir sur la question d'avant. Qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte, par exemple? Parce qu'on parle beaucoup de ces, sont un peu les héros des temps modernes en ce moment, Julien Assange, Deltour, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, ils apparaissent comme des gens courageux qui mettent au jour des réalités cachées, des documents utiles aux citoyens et qu'on leur avait soustrait leur attention et leur contrôle. Quel regard vous portez sur ces gens-là? Est-ce que vous faites des différences entre eux? Est-ce que vous saluez leur combat? Est-ce qu'au contraire ça vous paraît une démarche qui peut mener aux dangers que vous dénoncez? Enfin, en tout cas, que vous...
Je trouve que c'est très compliqué comme question. Et ce statut du lanceur d'alerte, il est très compliqué parce que si je parle d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire essayer de trouver...
Excusez-moi, je suis dans l'actualité, mais c'est...
Non, mais bien sûr, non, mais c'est un très très bon... Enfin, je veux dire, c'est un très bel objet de réflexion. Mais c'est difficile de se faire une idée totale. Mais justement, si on essaye de... Quand je dis juste philosophique, dans le sens où essayer d'avoir une vision un peu globale de la chose, enfin, générale, et pas juste sur telle ou telle personne. Justement, de pas dire, lui, il a raison, mais lui, il a tort. C'est ça, le problème du lanceur d'alerte. Comment on va savoir qu'il a raison ou qu'il a tort? Je veux dire, comment on va pouvoir fonder... ou légiférer sur le fait que quelqu'un dans une entreprise dise quelque chose, enfin, lance quelque chose, qu'est-ce qui va faire de lui un lanceur d'alerte ou un lanceur de rumeurs, sinon la posteriori?
Bon, enfin, là, on parle de gens qui ont amené, qui amènent sur la table des documents qui décrivent...
Non, mais je suis d'accord avec vous. Je vous parle juste du statut. Si on parle d'un statut, il faut pouvoir le définir. Si on veut légiférer, il faut pouvoir le définir. Comment on le définit si ça ne se définit qu'une fois qu'on sait que oui, c'était vrai? Je parle juste là en termes, c'est pour ça que je dis en termes philosophiques, dans le sens purement structurel. Bon. Ensuite, la question du lanceur d'alerte, évidemment, enfin, heureusement qu'il y a eu, enfin, on est très content qu'il y ait eu des lanceurs d'alerte sur certaines affaires, le médiator, les choses comme ça, où effectivement, grâce à eux, ont été révélés des scandales qui peut-être sans eux, effectivement, n'auraient jamais été connus.
Donc ça, c'est la bonne partie de la transparence, c'est le bon versant.
Bah, si vous voulez, c'est... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est comment légiférer autour de ça? C'est-à-dire que, par exemple, il y a le respect des sources journalistiques et la protection des sources. S'il n'y a pas de protection des sources journalistiques, il n'y a pas de journalisme, enfin de journalisme d'enquête, parce qu'effectivement, si on commence à balancer les sources, ben, plus personne ne voudra parler. S'ils ne sont pas protégés, le journaliste, il va plus pouvoir avoir des informations. Ça me paraît essentiel de protéger les sources. Sinon, encore une fois, on met en danger le journalisme. Comme quoi, hein, pour accéder à une transparence, c'est-à-dire au résultat d'une enquête, il faut bien quand même qu'il y ait un lieu qui ne soit pas transparent, à savoir les sources. Déjà, ça c'est juste pour dire que si on veut de la transparence, il faut qu'il y ait un endroit qui ne soit absolument pas transparent, sinon ça ne pourra pas fonctionner.
Il y a une dialectique, ouais. Une dialectique de la transparence.
Première chose. Seconde chose, je trouve que c'est plus simple de faire une loi sur la protection des sources que de faire une loi sur les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte, il peut aller voir un journaliste, rester dans l'anonymat, être protégé, et à l'issue de l'enquête journalistique, effectivement, devenir un lanceur d'alerte du fait que ces informations ont été vérifiées, et étaient réelles et ont permis, parce que l'information aura été publiée, de remettre en cause tel ou tel fonctionnement, de tel ou tel laboratoire, de telle ou telle chose, je ne sais quoi. Mais si vous voulez, là on ne parle pas de j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, on essayait de dire comment on pourrait créer un statut général de lanceur d'alerte. Et ça me paraît très difficile. Ça me paraît très difficile parce que, encore une fois,
donc c'est ce que vous dites
il
tout
ne
à l'heure,
l'est qu'à posteriori. Alors, la philosophie, elle a du mal à travailler avec de la posteriori. La philosophie, elle essaye plutôt de travailler avec de l'a priori. Elle essaie de construire des concepts qui valent en tout lieu, en tout temps. Enfin, quelque chose qui sur lequel on puisse s'adosser, quoi. Donc là, si le lanceur d'alerte, c'est juste, lui, c'est chouette parce qu'il a permis... Mais lui, en fait... il a dit que tel était pédophile et en fait il s'est suicidé, mais en fait c'était pas vrai. Enfin, vous voyez, alors d'un point de vue purement spéculatif, comment on fait la différence? Évidemment que d'un point de vue humain, on fait la différence, évidemment que. Mais d'un point de vue purement spéculatif, comment on fait la différence? Moi, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un le sait. Enfin, je n'apporte pas beaucoup de réponses là-dedans. Mais en tout cas, je ne sais pas.
Les lanceurs d'alerte dont je parlais, ce sont, comme vous le dites, ce sont des sources. Hein, des sources. Qui dit source dit information documentée, dit preuve, dit éléments solides sur lesquels on peut appuyer l'information du public.
Oui, mais voilà. si on légifère là-dessus, quelles sont les données qui permettront de dire oui, c'est bien un lanceur d'alerte? Bon. Ensuite, les lanceurs d'alerte sur les trucs Wikileaks et tout, enfin, bon, c'est pas Wikileaks, mais il y a des choses qui doivent être protégées. Il y a des secrets, je sais pas, diplomatiques qui doivent être protégés. Enfin, il y a des choses, on n'a pas besoin de savoir ce qui se négocie entre les États-Unis et la France sur certaines choses. Enfin, parce que sinon, on n'a qu'à tous connaître le code de la bombe nucléaire.
Vous avez remarqué que Hillary Clinton, en ce moment, on l'accuse d'avoir été trop transparente, plutôt que pas assez, puisqu'on l'accuse d'avoir utilisé une messagerie trop transparente pour échanger des informations avec son bureau sur des sujets sensibles, au lieu d'utiliser des circuits sécurisés. On l'accuse plutôt, elle, d'avoir été trop transparente.
Pour diriger un État, il ne faut quand même pas tout raconter à tout le monde. Enfin, je dis, il y a des choses qui se disent pas.
J'apporte de l'eau à votre moulin là. Ouais. Voilà. Alors, pour en revenir peut-être à la philo quand même, parce que c'est un livre de philo quand même. Vous avez parlé de Platon tout à l'heure, de la caverne. Il y a un autre philosophe qui joue un grand rôle dans la transparence moderne et à titre de source là de prédécesseur, c'est Rousseau.
Ah oui.
Jean-Jacques Rousseau. Alors expliquez-nous pourquoi Rousseau est un prédécesseur de cette idéologie de la transparence.
Alors Rousseau, effectivement, il y a un peu un fil rouge dans sa philosophie qui est cette idée de transparence. Et notamment, alors moi j'adore le Rousseau, philosophe politique, hein, vraiment je trouve que c'est une merveille absolue, le contrat social, même s'il y a aussi un idéal de transparence à l'intérieur. Mais si vous voulez, avant d'arriver, le fait qu'il y a un espace...
On va plutôt parler de ses confessions. Là.
Voilà, on va parler des confessions. Mais juste sur la question que dans l'espace public, tout doit être transparent, ça oui. Enfin, je veux dire, l'espace public, c'est public. Mais c'est public. Pourquoi dire transparent? C'est public. Tout ce qui se passe dans l'espace public doit être public. Ça me paraît être une tautologie. Mais pour revenir à ses confessions, effectivement, il écrit, donc c'est un peu l'un des premiers, enfin il y a évidemment Saint-Augustin, mais à se raconter lui-même dans un livre, donc de manière autobiographique, à la première personne, et pas dans un but apologétique ou autre, mais vraiment pour se raconter. Donc il inaugure un genre, les confessions, le livre intime, où on se dit, bah alors justement, il va un peu mettre en jeu ces différents espaces, puisqu'il va se raconter, lui, son intime, pour un public. Donc, il va rendre public quelque chose qui était de l'ordre du privé. Donc, voilà, il inaugure un peu, il essaye de faire ça. Alors, c'est hyper intéressant, et la première chose à faire lorsqu'on écrit des confessions, c'est évidemment un contrat de sincérité passé avec le lecteur. Parce que si on écrit des confessions pour raconter n'importe quoi, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc l'idée, c'est quand même que le lecteur puisse se dire, il me raconte vraiment quelque chose. Sinon, pourquoi il appelle ça des confessions? Sinon, c'est un roman. Donc, Rousseau dit, je vais vous raconter vraiment quelque chose. Et en même temps, encore une fois, à deux titres. D'abord, structurellement, c'est pas possible parce qu'il oublie des choses. Et il le dit lui-même, j'oublie, donc là, je vais réécrire, etc. Mais très bien, il y a un mentir vrai où parfois on raconte les choses d'une certaine manière qui les rend plus vraies et finalement la vérité a besoin d'un détour par la fiction, par une mise en scène pour vraiment se révéler. Parfois juste dire de la vérité nue, on l'entend pas. Il y a parfois un détour, c'est ce qu'on appelle le mentir vrai, c'est-à-dire qu'il y a ou le mentir romanesque où le roman permet de révéler quelque chose même si c'est par le biais de la fiction. Ça, c'est pas trop un problème. Mais ensuite, il explique, si vous voulez, enfin, c'est toute la philosophie de Rousseau, c'est que Rousseau a une forme de nostalgie du fait que toutes les âmes ne soient pas transparentes les unes avec les autres et qu'il n'y ait pas une immédiate communion entre les êtres et que les apparences se soient mises entre nous et que du fait des apparences, nous soyons obligés de passer par des biais très compliqués à l'intérieur desquels vont pouvoir se greffer la corruption, la stratégie, le chantage, etc. Et à partir de là, en fait, la société va devenir corrompue. Etc. Et donc, il y a cet idéal comme ça qui le porte un petit peu d'une transparence des cœurs. Et donc, il dit, vous voyez, moi, je suis transparent. Je suis transparent et je vous dis, c'est ça que je voudrais, c'est que tout le monde soit transparent. Mais en même temps, son livre, il est là pour, en réalité, pour critiquer toute la société qu'il a rejetée parce que parce qu'il a été, enfin bon, on va pas rentrer dans toute l'histoire de Rousseau, mais il a été extrêmement et de manière très virulente critiqué. Et en fait, il règle des comptes à travers ses confessions. Et donc, d'une certaine manière, il se sert de lui-même pour dire, regardez comme la solitude, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, que mon choix de vie d'ermite, c'est ce qu'il y a de mieux, mais en même temps, je le mets sur la place publique, et c'est-à-dire que je me suis retirée du champ des hommes parce que justement, il n'y avait plus de transparence, et je vous le dis. Mais en vous le disant, qu'est-ce que je fais ? Je reviens dans le milieu des hommes.
Donc une très belle ambivalence.
Et je rejoue à travers quelque chose qui est quand même de l'ordre de la séduction. Je rejoue ce que je dénonçais. Et donc il y a comme ça quelque chose qui se mord la queue.
Donc il y a une grande subtilité finalement, dans l'attitude de Rousseau.
Il y a une grande subtilité, mais il y a une impossibilité de transparence.
Et alors une dernière question, c'est une question un peu plus personnelle et politique en même temps. Michel Rocard était l'adepte du parler vrai dans la sphère politique française. Il s'est beaucoup opposé à votre père, justement, ils avaient des idées qui étaient plutôt cohérentes, enfin entre elles, mais ils semblaient s'opposer peut-être sur cette question de la, je dis, du parler vrai, de la transparence. Votre père était plus dans ce que vous dites là, c'est-à-dire c'est une certaine retenue.
Puis c'est pas la même génération, il y a aussi
peut-être pas la même génération.
Comment
est-ce que vous avez pensé à cette opposition Rocard-Mitterrand quand vous avez écrit ce livre ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Moi j'y ai pensé. Pas du tout, parce que si vous voulez, moi l'opposition Rocard-Mitterrand, mais... j'avais 13 ans donc j'en avais rien à faire.
Oui, enfin vous en avez entendu parler.
Oui, mais exactement comme un lycéen qui entend parler d'un truc. Bon. Mais en revanche, la question du parler vrai, elle est super intéressante parce que c'est toujours exactement la même problématique de la transparence. Aujourd'hui, on est obligé de dire qu'on va... Parce qu'il y a des avatars du parler vrai. On connaît...
Aujourd'hui, vous voulez dire, dans notre...
Sarkozy, Valls, ce sont effectivement des promoteurs du parler vrai. Je ne sais pas pourquoi on est obligé de dire qu'on parle vrai. Enfin, ça me semble être naturel. Évidemment,
ça cache quelque chose.
Le parler vrai,
c'est ça,
c'est-à-dire que ça me paraît être tautologique, mais surtout le parler vrai est un avatar de la communication. Il y a eu le politiquement correct auquel on oppose le parler vrai, mais en fait ce sont deux stratégies communicationnelles. Alors c'est quoi le parler vrai ? Alors si je m'en tiens aux exemples plus récents auxquels moi-même dont j'ai été témoin, et non pas les échanges Rocard et Mitterrand, parce que je ne le voyais, enfin pour le coup, j'étais vraiment pas une citoyenne très éveillée à cet âge-là. Je n'étais pas en plus très passionnée par la politique à cet âge-là. La question du parler vrai, ça veut dire quoi parler vrai ? Enfin, vraiment, j'aimerais qu'on m'explique, en tout cas ceux qui utilisent ce langage, que veut dire parler vrai ?
On est en plein dans le sujet. Parce que,
hein. Absolument. Si parler vrai, c'est se livrer à toutes les inhibitions, à la pulsion et à l'idée que la pulsion puisse entrer dans le champ du public. A priori, la civilisation, elle est quand même fondée sur le refoulement et sur le fait qu'on ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête, on ne dit pas des grossièretés dans certains espaces, on peut les dire peut-être entre copains, mais pas en cours ou pas ici, ou ni dans la rue, ni dans un magasin où on est en train d'acheter quelque chose. Bon, bref, il y a des niveaux de langage qui sont eux-mêmes dictés par les codes et les règles inhérentes à certains espaces. On le sait, on l'a même pas appris, enfin pas nécessairement, mais on le sent, on le sait. Donc c'est quoi le parler vrai ? C'est d'anéantir la distinction entre les espaces et de dire la pulsion a le droit de s'exprimer, y compris dans l'espace public, alors que l'espace public se tient précisément du refoulement de la pulsion. Bon, je pense évidemment à une phrase que je n'ai pas très envie de citer parce qu'elle n'est pas très correcte même en termes de syntaxe, mais... je trouve que parler vrai lorsqu'on a un statut, c'est-à-dire en fait parler comme si on était super potes, c'est un mépris d'abord de ceux à qui on parle, c'est un mépris de la langue et c'est un mépris des espaces. Et s'il y a un mépris des espaces lorsqu'on est un homme politique, alors que la démocratie n'est fondée que sur cette distinction des espaces, alors Quelle est la fonction qu'on occupe?
Je pense que ça ne s'applique pas très bien à Michel Rocard.
Non, pas du tout. Je pensais à autre chose.
Bon, d'accord. Non, on était quand même sur un plan plus élevé. Un plan plus élevé.
Oui, mais, le parler vrai a quand même eu une... Enfin, il y a eu une époque où ça excitait tout le monde. Les journalistes trouvaient ça formidable. Enfin, quelqu'un qui nous parle. Non, il y a eu quand même quelque chose. Enfin, il y a eu un engouement absolument... impressionnant sur le parler vrai, mais qui effectivement aussi, d'une certaine manière, s'opposait à quelque chose qui est tout aussi détestable, qui est le politiquement correct. Parce que c'est aussi insupportable qu'on nous parle pour ne rien dire. Et qu'on nous parle pour mentir, parce qu'il y a un parler faux, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une manière de parler pour ne pas dire. Et c'est insupportable, mais le parler vrai est aussi une autre manière de parler pour ne pas dire.
Donc, entre les deux, il y a le pas trop parler pour permettre l'action. Pour permettre l'action et pour permettre, l'action et la réflexion, c'est ça?
Moi, je pense qu'ils parlent trop, tous. Mais, non, mais je veux dire,
tous, ils parlent trop, oui.
Non, mais ça, c'est pas ça, c'est que, en fait. Non, mais c'est pas. En fait, ce que je trouve dangereux, mais c'est pas juste ça, parce qu'en fait, si, il y a tout à fait une manière de parler qui est adéquate aux espaces où l'on est, c'est tout. Mais il y a. Le fait de parler trop, je pense qu'il y a une dérive aussi journalistique et dans la structure même des médias qui sont les chaînes d'infos continues, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de réagir à tout. C'est extrêmement délétère, c'est-à-dire qu'on est en train de privilégier l'instantané sur la longue durée. Mais alors que va devenir la politique là-dedans? C'est-à-dire, si on n'est pas dans un approfondissement, dans une réflexion sur le long terme, qu'est-ce que c'est que la politique alors? C'est de la gestion immédiate? C'est extrêmement dangereux. Donc oui, je trouve qu'on devrait arrêter de répondre à la sollicitation des journalistes, de certains journalistes.
Nous, à Sud-Ouest, on n'est pas des gens comme ça.
On n'est pas... Parce que d'abord, on ne sait pas tout sur tout et on n'a pas à réagir sur tout.
Merci beaucoup. Et je vous rappelle que son livre, La dictature de la transparence, est édité chez Robert Laffont.